Bonjour mes frères et mes sœurs. Aimez-vous les changements dans votre vie? Êtes-vous content de ce que vous êtes, de ce que vous faites, du travail que vous avez? Aimez-vous votre famille, si vous avez une famille? Est-ce que les gens autour de vous vous plaisent-ils? Autrement dit, s'il fallait changer quelque chose dans votre vie, qu'est-ce que vous vouliez changer? Votre profession, votre famille. Je me rappelle une fois un enfant qui me dit, vous savez, moi, je voudrais changer de famille. Eh bien, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas changer votre famille. Mais vous pouvez changer votre attitude, vos rapports avec les vôtres. Et je continue. Qu'est-ce qu'il vous faut dans la vie pour être plus heureux, plus joyeux, pour que les choses aillent mieux dans votre vie? Si vous êtes marié, êtes-vous content de votre mariage? Si vous avez un travail, êtes-vous content de votre travail? Si vous avez des enfants, sont-ils obéissants? Sont-ils heureux? Autrement dit, nous avons tous besoin d'un changement, des changements, je dirais, pas un seul, mais de changements constants dans notre vie. La vie n'est qu'un changement, une suite de changements. Chaque instant, les choses changent, même dans la nature. Voilà pourquoi je vous pose la question. Si vous aviez la liberté, mettons, de changer des choses, et vous en avez souvent, qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie? Votre façon de vivre? Votre façon de penser? Votre façon de vous comporter avec votre prochain? Ou bien vous êtes solitaire? Préférez-vous vraiment voir les choses changer? Et de quelle façon? À votre façon ou bien à la façon que Dieu vous décrit dans la Bible. Une chose est certaine, la vie, surtout la vie chrétienne, est sujette à un changement constant. Savez-vous que l'un des principes les plus importants dans la vie, c'est ce que l'apôtre Pierre a écrit en disant « Nous devons croître dans la grâce et la connaissance ». Croître signifie croissance. Croissance signifie changement. Chaque croissance, chaque changement produit des causes et des effets, c'est normal. Mais si vous êtes vraiment proche de Dieu, vous comprendrez que les changements que vous subissez, ou bien les changements que vous préférez, doivent toujours être dans la voie que Dieu a tracée devant nous. Si c'est le cas, nous sommes heureux. Le cas contraire, nous sommes malheureux. Cette vérité, mes frères et mes sœurs, est élémentaire et indispensable en même temps. Un changement, je répète, demande toujours des sacrifices, d'une part et d'autre. Il y a toujours quelque chose qui vous dérange, mais le fait est que, demandez-vous, ce changement est-il nécessaire? Il y a certaines choses dans la vie que vous pouvez changer, d'autres, vous ne pouvez pas changer. Ce que vous pouvez changer, acceptez-le de la bonne façon si c'est conforme à la volonté divine. Si vous ne pouvez pas changer, dans ce cas-là, tâchez de savoir quelle est la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Auquel cas, c'est toujours la Bible qui doit être votre guide. Voilà, c'est ainsi que nous pouvons même avancer dans la vie. Voyez-vous, dans mon ministère, j'ai visité pas mal de gens. J'ai vu pas mal de pays, surtout des pays francophones. J'ai vu le riche et le pauvre. J'ai vu le grand et le petit. J'ai vu ceux qui étaient seuls et d'autres qui avaient une grande famille. J'ai vu des gens qui étaient en bonne santé, d'autres malades. Mais chacun avait et a encore une attitude spéciale. Comment est-ce que vous affrontez la vie? Quelle est votre position face à l'adversité? Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Si vous êtes, vous n'avez pas besoin d'être philosophe, mais si vous voulez un peu faire la philosophie, laissez-moi vous mettre au défi. Le présent, franchement parlant, n'existe pas. Ah, vous êtes fou, direz-vous, non? Pensez-y. Dès que vous pensez au présent, c'est déjà passé. Ce moment-ci, voyez-vous, c'est derrière. Autrement dit, il y a ce passage dans la vie. Ce passage qui nous donne un peu la force, parce que bien que le présent dure quelque temps, le présent dure en même temps en faisant partie du passé. Je ne fais pas de la philosophie. Je vous dis une chose. Parce que si vous comprenez que la vie est éphémère et que ce qui existe aujourd'hui peut ne pas exister demain, dans ce cas-là, vous aurez une meilleure attitude envers les changements. Je répète, la vie est un changement constant. Nous devons nous être toujours proches de Dieu afin d'être sûrs que les changements que nous entreprenons ou bien qui nous arrivent sont conformes à la voie que Dieu a tracée devant nous tous. Une fois que vous avez, voyez-vous, cette attitude, alors vous comprendrez ce que c'est que le bonheur. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous cherchez quelque part. Non. Le bonheur, c'est à l'intérieur de votre cœur. Le bonheur, comme la Bible dit, consiste à donner et non pas à recevoir. Et cela demande un changement total dans votre vie. Je répète, nous devons être prêts dans la vie à tout, à toute chose. Lorsque Dieu est votre guide, lorsque le Christ vous montre la voie, et il nous montre la voie dans la Bible, et lorsque vous suivez cette voie, vous pouvez accepter tout changement, quelle que soit l'âpreté, la dureté de ce changement, vous pouvez l'accepter avec le sourire aux lèvres. Eh oui, ce ne sera pas toujours facile, ce n'est pas une question de prétendre, non. Mais vous aurez le cœur tranquille, parce que vous saurez que Dieu est avec vous, le Christ est à votre côté, et que ce changement que vous subissez, Dieu est au courant. Parce que vous marchez avec lui, main dans la main. Voyez-vous, c'est ça le secret. Soyez prêts à tout, mais si vos yeux sont sur le Christ, sur le chemin qu'il a tracé devant nous, dans ce cas-là, vous pouvez être sûr que les changements qui vous sont imposés dans la vie ne seront pas durs. Voyez-vous, nous autres, en tant que membres de l'Église de Dieu, qu'est-ce que c'est qui nous fait la différence, qui fait la différence entre le monde et nous? C'est que le monde, d'une façon générale, ne travaille pas avec Dieu, ne marche pas avec Dieu. Tandis que vous et moi qui sommes dans l'Église, nous devons marcher avec Dieu. Nous devons croître dans la grâce et la connaissance, comme l'apôtre Pierre a dit. Et cette croissance n'est pas toujours facile, je le répète. Car presque tout en ce bas monde, surtout à cause de Satan qui est toujours roi sur cette terre, presque tout, dis-je, demande des efforts. Et parfois, nous nous décourageons. Parfois, nous nous rendons, nous disons, je n'en peux plus. Selon la Bible, lorsque vous dites « je n'en peux plus », vous faites Dieu un menteur. Car Dieu a dit que, quelles que soient les épreuves que vous subissez, vous aurez toujours, de par sa bonté, la force d'affronter ces épreuves, d'aller de l'avant, de les supporter, et que rien ne vous sera imposé en ce bon monde qui soit au-dessus de vos forces. Il y a une chose, je dirais franchement, qui est importante, c'est que beaucoup de temps, je ne dis pas toujours, les changements que vous subissez sont dus, vous savez à quoi? À vous. Parce que selon les décisions que vous prenez, selon la voie que vous prenez, selon ce que vous faites, vous pouvez vous imposer ou bien vous soumettre à ce changement. Un changement peut venir de l'extérieur, certes, mais souvent, ces changements sont de nous-mêmes, de la direction que nous prenons dans notre vie. Une autre chose qui est importante, c'est que tout dans la vie, et c'est normal, je ne fais pas la philosophie, est une question de cause et effet. Si vous laissez tomber quelque chose, ça ne monte pas, ça descend. Autrement dit, tout ce que nous faisons produit un résultat. Cause à effet est un principe élémentaire. Donc, si vous pouvez changer la cause, allez-y. Si vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, tâchez de voir comment vous pouvez vous soumettre à la cause ou bien marcher avec la cause. Question, cause à effet, je dis, c'est indispensable. Ceci est vrai même en ce qui concerne la Bible, en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne l'obéissance au commandement de Dieu. Voyez-vous, Dieu nous donne des lois. Nous devons respecter ces lois. Si nous les respectons, bon, nous en cueillons les fruits. Mais si, par contre, nous désobéissons à ces lois, nous souffrons. Voilà, cause et effet. Alors, quel est donc votre problème dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez changer? Si ce changement que vous avez dans votre tête se rapporte à des lois, surtout aux lois divines, dans ce cas-là, demandez-vous, examinez-vous vous-même pour voir si vous respectez vraiment les lois divines. Le principal, c'est l'amour. Si vous n'aimez pas votre prochain, vous ne pouvez pas être heureux. Si vous n'aimez pas votre prochain, même pour vous sacrifier, comme le Christ l'a fait pour nous, vous ne pouvez pas être tout à fait heureux. Prenez l'exemple de nos ancêtres. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Bible parle des Israélites. Les Israélites ne sont pas des gens que vous ne connaissez pas d'une façon générale, ce sont nos ancêtres. Que vous soyez francophone, anglophone, ça, c'est une autre histoire. De toute façon, les Israélites ne sont pas seulement des Juifs, ça comprend les Juifs, mais ça comprend donc 12 autres groupes de nations, dont les francophones, dont les anglophones, etc. Donc Dieu a dit aux Israélites, vous observerez mes lois, mes ordonnances, mes commandements, vous serez heureux. Par contre, a-t-il ajouté, si vous ne le faites pas, vous serez châtiés, vous souffrirez. Regardez autour de vous, regardez où nous en sommes. Laissez-moi du reste vous lire quelques versets de Lévitique, l'Ancien Testament, d'accord, mais l'Ancien Testament fait partie de nouveau. Donc Dieu a dit dans Lévitique, chapitre 26, entre autres, et je citerai quelques versets ici et vous expliquerai le cause et effet. Dieu a dit, vous ne ferez point d'idole. Alors, dès que vous commencez à faire des idoles, vous avez des difficultés avec Dieu. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant l'Éternel. Voilà. Voyez-vous, automatiquement, nous savons ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, Dieu termine ce verset et dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » chaque fois que vous voyez dans la Bible, cette petite sentence, « Je suis l'Éternel », c'est un tampon que Dieu met. Autrement dit, c'est une décision, c'est une loi, voilà le tampon. Ensuite, verset 2, Lévitique 26. Je prendrai mon temps, s'il le faut, parce que ça vaut la peine. Regardez voir ce que Dieu dit. Nous parlons d'être heureux, nous parlons d'obéir à Dieu. Il dit, vous observerez mes sabbats, au pluriel, et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Encore une fois, le tampon. Donc, les sabbats. Il y a des sabbats qu'il faut observer, mais oui. Ce n'est pas mon sujet, mais prenez Lévitique 23. Il y a le sabbat hebdomadaire, il y a les sabbats annuels. Donc, Dieu dit que nous devons observer ces sabbats pour être heureux. Ensuite, verset 3, dit, si vous suivez mes lois, voyez-vous, cause à effet, toujours, si vous gardez mes commandements, et les mettez en pratique, dès ce cas-là, Dieu va faire quelque chose. Maintenant, c'est Dieu qui va faire quelque chose lorsque vous obéissez à sa volonté. Il dit, je vous enverrai des pluies en leur saison. Regardez, nous en sommes aujourd'hui. Il y a des endroits où la sécheresse est terrible. Beaucoup d'endroits, même aux États-Unis, ils souffrent de sécheresse qui produisent des dégâts fantastiques. Et pourtant, Dieu dit, je vous enverrai des pluies en leur saison. Aujourd'hui, les pluies ne tombent pas en leur saison. La terre donnera ses produits. Regardons-nous en somme. Si vous suivez la nouvelle, le monde est affamé, meurt de faim, parce que la terre ne produit pas de fruits assez suffisamment. Les arbres des champs, dit-il, donneront des fruits, leurs fruits. Si ça arrive, mais c'est dommage que les gens ne suivent pas les lois divines, même pour savoir comment être bénis. Il dit, verset 5, « À peine aurez-vous battu du blé que vous toucherez à la vendange. » C'est beau ça, c'est beau, c'est comme la promesse, les promesses que Dieu a faites à Adam et à Ève. Il dit, « Cultivez la terre et vous serez bénis. » Aujourd'hui, nous ne sommes pas bénis parce que nous avons transgressé des lois divines qui régissent le contrôle de la terre. Il dit, « Vous mangerez à satiété, ainsi de suite. Vous serez en sécurité dans votre pays. » Sécurité, mais voyons. Si vous voyagez en voiture, vous savez que c'est que c'est la sécurité. Mais il n'y a pas de sécurité. Dans nos maisons, nous ne sommes pas sûrs. Lorsque nous quittons la maison pour une raison ou pour une autre, nous ne savons pas si la maison ne sera pas cambriolée pendant notre absence. Verset 6, toujours Lévitique 26. Je prends mon temps, ça vaut la peine. Lisez-le tout vous-même, du reste. Il dit, je mettrai la paix dans le pays. La paix. Savez-vous, mes frères et mes sœurs, que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu plus de 200 guerres, petites et grandes en ce bas monde. À peine 70 ans, nous avons eu 200 guerres, alors que la dernière, Deuxième Guerre, devait être la guerre finale. Churchill avait dit, il n'y aura plus de guerre pendant 50 ans. Plus de guerre pendant 50 ans. Nous avions eu presque 150 guerres entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les 50 ans dont Churchill parlait. Voilà où nous en sommes. Dieu dit, je mettrai la paix dans le pays. Personne ne vous troublera, ne troublera votre sommeil. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas obéir à Dieu. Les changements ou les changements que nous voulons ne sont pas conformes à la façon que Dieu nous a demandé de vivre. Verset 7, ça c'est intéressant. « Vous poursuivrez, dit-il, vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée. » Voyons. Regardez où en sont les grandes nations aujourd'hui. Regardez l'Amérique. Elle est en train de se mettre à genoux devant l'adversaire. Regardez l'Angleterre. Elle a presque tout perdu. Alors, où est notre grandeur en Dieu? Vous poursuivrez, dit-il, vos ennemis? Non. On ne peut pas poursuivre nos ennemis. Ils tomberont devant nous? Non. Ce sont eux qui nous gouvernent aujourd'hui. Il dit, je me trouve, verset 9, je me tournerai vers vous. Je vous rendrai fécond. Je vous multiplierai. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Et c'est le cas. Autrement dit, voyez-vous, ce sont des promesses, Dieu ne ment pas. Pourquoi n'avons-nous pas hérité de ces promesses? Parce que nous n'avons pas fait ce que Dieu nous demande. Nous voulons des changements, mais des changements à notre façon. Nous voulons avoir ce que nous voulons sans pour autant nous soumettre aux lois que Dieu a prescrites dans la Bible. Dieu a dit, je marcherai, verset 12, je saute quelques versets, dit, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous savez, ça c'est le rêve de tout le monde. Que Dieu est mon Dieu et que je suis, moi, son peuple. Mais c'est le cas, c'est vrai, c'est possible, c'est ce que Dieu veut. Mais si ça ne se produit pas, c'est que parce que nous ne marchons pas comme Dieu nous dit. Ensuite, au verset 13, regardez voir cette phrase. Dieu dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé, dit-il, les liens de votre joug. Je vous ai fait marcher la tête levée. » Non, nous n'avons pas la tête levée aujourd'hui. Les nations israélites, et ça, je vous expliquerai pour ceux qui ne le savent pas plus tard. Nous sommes les nations aujourd'hui, les Israélites, pas seulement les Juifs. Aujourd'hui, les nations israélites baissent la tête. Ils sont les esclaves, pour ainsi dire, des autres nations. Alors, où en sommes-nous? Notez, je vous prie, les résultats. Les résultats d'obéissance et de désobéissance. D'une part, les commandements de Dieu, et d'autre part, la voie que nous voulons suivre à notre façon pour être heureux à notre façon, et pourtant nous voudrions être vraiment heureux. Être heureux, mes frères et mes sœurs, n'est pas possible à moins de voir les conditions du bonheur, et ces conditions sont toujours dans la Bible que nous devons respecter. L'amour, c'est la base. L'amour envers qui ? D'abord envers Dieu, ensuite envers notre prochain. Qui est notre prochain ? Pas seulement les membres de notre famille, pas seulement des gens que nous aimons, l'étranger, celui qui a besoin de nous, l'orphelin, la veuve. Ceux qui ont besoin de nous, voyez-vous, c'est une partie de notre famille. Nous devons aimer notre prochain, aider notre prochain, même, et oui, même nos ennemis. Voilà ce que Dieu demande. Un changement, je répète, demande toujours un sacrifice. Parfois, ces sacrifices sont durs, parfois, ces sacrifices sont légers. Si vous êtes vraiment proche de Dieu, si Dieu vous montre la voie, suivez-la, quelles que soient les circonstances, humainement parlant. Souvent, et c'est possible, que ce que Dieu vous permet d'avoir ou de jouir serait contraire à votre volonté. C'est possible, je ne sais pas. Parfois, les gens demandent des choses dans leur prière. Comme des perroquets, ils répètent toujours la même chose. « Oh Dieu, donne ceci, donne cela. » Mais si ces demandes ne sont pas conformes à la volonté divine, si par exemple vous êtes totalement sûr que ce n'est pas la volonté de Dieu ce que vous demandez, dans ce cas-là, ayez le courage d'accepter et dès ce moment-là, vous serez heureux. Voilà pourquoi je répète, les changements ne sont pas toujours selon notre compréhension, même notre désir, mais ces changements, s'ils sont selon Dieu, seront toujours pour notre bien. Bien entendu, un changement demande des efforts, du temps. Je vous ai posé au commencement de ce sermon, qu'est-ce que vous vouliez changer dans votre vie ? Eh bien, s'il y a des choses que vous pouvez changer, sans faire du tort à votre prochain, allez-y. Mais faites ces changements selon les principes établis, ordonnés dans la Bible par Dieu. Il faut savoir accepter les conditions qui sont imposées selon la volonté de Dieu. Il faut savoir obéir aux ordres de ceux qui nous sont nos supérieurs. Il faut toujours être sûr que les ordres que nous recevons de la part de ceux qui sont au-dessus de nous ne sont pas contraires à la volonté de Dieu. Là encore, c'est une question dont je parlerai en l'avenir. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il a écrit. Paul a subi toutes sortes de changements dans sa vie. Il était grand, il est devenu petit. Il poursuivait les chrétiens, il est devenu, comme les chrétiens, un esclave. Il a connu toutes sortes de souffrances. Mais voyez ce qu'il écrit, Philippiens chapitre 4, versets 12 à 13. « Je sais vivre dans l'humiliation. » Eh oui, c'est pas facile de vivre dans l'humiliation. Surtout lorsque vous avez connu la grandeur. Et Paul, en quelque sorte, a connu la grandeur. Il était fort, il était puissant. Il pouvait mettre en prison les chrétiens. Et pourtant, il a choisi l'humiliation. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. C'était le cas. Et voilà maintenant le secret. En tout et partout. Regardez voir cette force. Il n'y a pas d'exception. C'est là la différence entre vous et lui. Il dit, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance. Voyez-vous ? Et ça arrive. J'ai vu des gens dans ma vie qui étaient tellement riches et qui ont tout perdu. D'autres, j'ai vu qui n'avaient rien et qui ont été bénis. Ils sont devenus très riches. Paul dit, avoir faim, être dans l'abondance, être dans la disette. Ensuite, il vous donne la réponse, verset 13. Prenez ce verset dans votre Bible, soulignez-le, mettez-le dans votre tête, dans votre esprit. Et chaque matin, lorsque vous vous levez, franchement parlant, répétez-le, pas comme un perroquet, non, mais avec assurance. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pas par moi-même, par le Christ. Donc, tout ce que vous faites dans la vie, tout changement que vous voulez apporter, vous pouvez tout par le Christ qui vous fortifie. Voilà déjà une assurance fantastique. Tâchez d'apprendre pour vous-même, tâchez de le répéter à ceux qui souffrent, à ceux qui ont besoin de comprendre. Voilà cette détermination qu'il nous faut, ce courage, cette certitude. Avec ce genre de raisonnement, voyez-vous, vous pouvez être tranquille parce que ce n'est pas vous qui faites, c'est Dieu qui fait. Et Dieu peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà où nous en sommes. Vous devez affronter tout changement avec courage. Parce que vous avez le Christ avec vous. Demandez-vous toujours, ce changement est-il nécessaire dans ma vie pour croître dans la grâce et la connaissance? Si tel est le cas, ayez le sourire aux lèvres. Ayez le courage dans votre esprit. Allez de l'avant avec cette certitude que vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Voyez-vous, pour beaucoup de gens, la vie n'est qu'une chose plaisante dans ce sens qu'ils veulent jouir de la vie. Pas mal, pas mauvais. On peut jouir de la vie de la bonne façon. Mais on peut jouir de la vie en transgressant des lois et on souffre des conséquences, ou bien en respectant des lois, auquel cas notre jouissance est double. Pour beaucoup de gens, la vie n'a pas de but. Ils sont nés pour manger et boire. Ils sont nés pour aimer, souvent de façon interdite par Dieu. Ils sont nés pour s'amuser, souvent par des choses qui ne sont pas toujours bonnes devant Dieu. Mais tout ça, voyez-vous, c'est la façon de vivre de certaines personnes. La vôtre, la mienne, doit être conforme à la voie que Dieu a tracée devant nous. La vie a un but, nous le savons. Mais lorsque vous vous levez le matin, avez-vous ce genre de compréhension? Est-ce que vous commencez votre journée avec cette détermination que la vie a un but et chaque jour vous rapproche de ce but? Avez-vous cette certitude? Avez-vous cette compréhension? Ou bien vous dites, oh, mes problèmes. Si vous commencez avec vos difficultés le matin, vous n'en finirez pas. Et vous ne serez pas sur le bon chemin. Ce n'est pas la voie chrétienne, ça. La voie chrétienne, c'est d'avoir en la tête que la vie a un but, que Dieu est avec vous, et que dans tout ce que vous faites, Dieu vous guidera, vous aidera. Parfois, je répète, les choses qui vous arrivent ne seront pas totalement plaisantes en ce qui vous concerne. Mais si Dieu le permet, si c'est bon pour vous, acceptez-les, car Dieu sait ce qui est bon pour vous. Voyez-vous, pour beaucoup de gens, ce que je dis, ça n'a pas de sens. Mais vous qui êtes dans l'Église, vous savez fort bien d'où vous êtes venu. Vous savez fort bien ce que vous avez cru avant de venir dans l'Église. Et vous avez appris dans l'Église que ce que vous aviez cru n'était pas juste. Et que vous êtes né un jour pour être né dans la famille divine. C'est une vérité qui nous échappait alors que cette vérité nous est révélée dans la Bible. Nous sommes nés donc pour un jour être transformés. Nous le savons, nous le disons toujours. Mais est-ce que vous vivez en conséquence? Lorsque vous faites face à des changements dans votre vie, à des épreuves, dites-vous vous-même, un jour je serai dans le royaume et je serai enfant de Dieu, vivrai éternellement. Voilà comment vous pouvez, voyez-vous, changer des circonstances. Lorsque vous voyez ceci, lorsque vous pouvez voir la vie que mène ce monde d'une façon générale, où les gens en sont, pour ainsi dire, et lorsque Dieu, qui nous a promis la vie éternelle, et que nous sommes dans l'Église de Dieu, nous ne sommes rien, et nous n'avons pas peut-être les plaisirs que les autres ont, ou les fortunes même, mais nous avons un avenir qui surpasse toute espérance. que le monde a. Jetez un coup d'œil sur ce monde, je vous prie. Enfin, je n'ai pas besoin de vous poser cette question, vous le savez fort bien. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quels sont les plaisirs que vous voudriez avoir dans la vie? Et échanger aux promesses que Dieu vous fait dans la Bible. Quels sont ces plaisirs? Réfléchissez. Si vraiment vous comprenez bien, sachez que tout ce que vous désirez et qui est bon pour vous, Dieu fera de sorte que vous puissiez en jouir. Peut-être, je répète, pas exactement quand vous voudriez, mais nous sommes tous différents. Certains aiment la solitude, d'autres aiment la compagnie. Quoi qu'il en soit, tâchez d'être toujours proche de Dieu et être un citoyen du royaume de Dieu en ce moment. Un ambassadeur. Un ambassadeur représente son pays. Nous, membres de l'Église, nous devons représenter Dieu, le royaume de Dieu. Voyez-vous, ce que nous appelons en ce moment de souffrance, la plupart du temps, ces souffrances sont dues à notre nature humaine, aux décisions que nous prenons, aux changements que nous apportons dans notre vie à cause de notre nature humaine. Regardez ce monde. Vous savez, il y a 50 ans, j'étais en France, en Europe, et j'étais encore jeune, et j'ai aussi fait des folies, je sais. Mais même en ce temps-là, il y a 50 ans, lorsque je considère ce que la vie était, c'est tellement différente de ce que c'est aujourd'hui. Les gens, quand même, avaient une certaine attitude. Aujourd'hui, c'est la folie. Aujourd'hui, les gens se sont éloignés de Dieu. Aujourd'hui, les gens cherchent avant tout les plaisirs charnels, la richesse, les richesses, et avant toute chose, ils suivent la voie de la dégénérescence. Ce monde est en train de se détruire. Je me rappelle la plaisanterie que j'avais entendue il y a longtemps. C'est quelqu'un qui tombait du 10e étage. En passant par le 16e, il dit, pour le moment, tout va très bien. Et c'est le cas. Ce monde est en train de tomber du 10e étage, pour ainsi dire. Et pour le moment, peut-être nous sommes 6e étage ou 5e, je ne peux pas vous dire, mais pour le moment, tout va très bien. Nous nous trompons, un jour nous verrons comme nous avons été bêtes, pour ainsi dire. J'ai vécu en Europe, je vis aux États-Unis. J'ai vu des changements drastiques dans le monde, des inventions fantastiques. Aujourd'hui, la jeunesse prend pour acquis toutes ces grandes découvertes. J'ai pu voir dans le temps, lorsque j'étais très jeune, qu'on pouvait vivre sans cela. Bon, ce n'était pas aussi agréable, si vous voulez, mais il est possible de vivre sans cela. Si ces découvertes modernes nous éloignent de Dieu, il vaut mieux les détruire, ces découvertes. Je me rappelle la phrase de Albert Einstein. Vous savez ce qu'il avait dit? Il a dit, si je savais que les gens transformeraient mes formules pour en faire une bombe atomique, j'aurais préféré être plombier. Et c'est vrai. Voilà comment les gens changent tout. Humainement parlant, mes frères et mes sœurs, nous qui sommes dans l'Église, nous devions aider nos frères dans le monde à être plus humanisés. Eh oui, pas nous-mêmes, c'est Dieu qui fait, mais leur montrer le charme de la Bible, le charme de l'amour de Dieu, le charme d'être dans l'Église, le charme d'obéir à Dieu. Souvent, lorsque je lis la Bible et lorsque je vois les promesses que Dieu a faites, je vous ai cité Lévitique 26, vous avez Deutéronome 28, la même chose, d'une part les bénédictions, d'autre part les malédictions, autrement dit obéissance ou rébellion. Souvent dis-je, il y a un verset qui me travaille. Parce que, comme je dis, j'ai vécu dans le monde. J'ai vu l'Europe, j'ai vu l'Amérique, j'ai vu en partie les Antilles surtout. Et j'ai vu comment Certains souffrent sans se rendre compte, sans savoir pourquoi ils souffrent. Et aux États-Unis, je regarde un grand pays, riche, fort, puissant, la plus grande puissance, dit-on. Et tout d'un coup, aujourd'hui, regardez où nous en sommes. L'Amérique se prosterne devant d'autres nations qui sont plus riches, pour ainsi dire, qui deviennent plus puissants. Et vous savez que Dieu a prédit cela dans la Bible. C'est ce verset auquel je pense souvent, surtout dernièrement. Laissez-moi vous le citer. Deutéronome chapitre 28. Là, c'est encore obéissance, désobéissance. Deutéronome 28, verset 47, Dieu a dit à nous tous qui sommes israélites, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance. Nous avions et avons encore un peu d'abondance de toutes choses. Servir l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Montez-le, avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ce n'est pas que Dieu veuille nous détruire, c'est que nous nous détruisons nous-mêmes. Voilà les conditions. À mesure que les années passent, ces avertissements deviennent de plus en plus réels. Beaucoup de gens lisent la Bible comme quoi l'Ancien Testament ne se rapportait qu'aux Juifs, un point c'est tout, mais ils se trompent. Nous, dans l'Église, nous devons savoir que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament s'adressent à nous tous et que le peuple choisi dont parle la Bible, ce sont les Israélites, dont les descendants sont les francophones, sont les anglophones, et ainsi de suite. Je répète, ça c'est un sujet dont nous parlerons plus tard. Mais nous sommes les enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes l'Israël moderne, y compris les Juifs, certes. Mais où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? La plupart des prophètes de l'Ancien Testament parlent de ces changements, parlent de ce qui va se passer. Et si vous ne comprenez pas ces choses, et pourtant nous, dans l'Église, nous devons les comprendre, mais je dis, ceux qui ne comprennent pas, ils diront que Dieu n'est pas juste, que Dieu nous punit pour des raisons qu'ils ne comprennent pas. Regardez voir ce que Dieu a dit par la prophète Osée, chapitre 4, verset 6. Là encore, une vérité élémentaire. Il dit, mon peuple, nous sommes son peuple. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne parle pas de la technologie moderne. Il ne parle pas de ses portables, tout ce que vous voulez, comme invention. Non, la connaissance de Dieu, la connaissance de ses paroles. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ensuite, il précise, puisque tu as rejeté la connaissance, ce monde a rejeté la connaissance de Dieu. Je te rejetterai aussi. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Pourquoi? Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, conséquence, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà. En un seul mot, je dirais, pour ainsi dire, voilà où nous en sommes. Et Dieu dit au verset 7, au verset 4, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Voilà où nous en sommes. Ne blâmez pas Dieu, ce n'est pas la faute à Dieu. Si votre vie a changé, personnellement parlant, et si vous commencez à subir des changements qui vous plaisent, étudiez cette phrase. Est-ce que votre conduite a amené ces circonstances pour vous? Je ne sais pas. Tout dépend de vous. Tout dépend de votre compréhension. Un changement quelconque, je répète, demande des sacrifices. N'importe quelle croissance demande des douleurs. Il y a des douleurs de croissance qui sont bonnes. Et oui, si les douleurs de croissance sont conformes à la volonté de Dieu, ce sont des douleurs de croissance bonnes. Mais souvent, ce n'est pas le cas. la rébellion, le mécontentement ne sont pas des douleurs de croissance, pas du tout. Si par contre, vous souffrez à cause de votre soumission aux lois divines, ce sont des douleurs agréables, ce sont des douleurs de croissance. Rappelez-vous, je répète, rappelez-vous les paroles de l'apôtre Pierre. 2 Pierre chapitre 3, versets 17 et 18, c'est ce que je vous dis tout au long de ce sermon. Il dit, 2 Pierre 3, 17 à 18, il dit, « Vous, bien-aimés, dit-il, qui êtes avertis, et nous le sommes dans l'Église, mettez-vous sur vos gardes. » Nous devons être sur nos gardes, mes frères et mes sœurs. Nous ne le sommes pas. Malheureusement, nous nous laissons emporter par les plaisirs du monde, par ce qui se passe de par le monde. Nous envions ce qui n'a pas besoin d'être envié. Nous jalousons ce qui n'a pas besoin d'être jalousé. Il dit, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez déchoir de votre fermeté. Là encore, c'est un avertissement fantastique. Tâchez de comprendre. Et après cela, l'apôtre Pierre ajoute, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et de Sauveur Jésus-Christ. Voilà, voyez-vous, lorsque vous mettez ces choses ensemble, vous pouvez voir où nous en sommes aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles les gens sont confus, parce que dans notre esprit, nous marchons, nous travaillons avec le temps. Le temps pour nous, c'est très important, mais devant Dieu, le temps n'est que passager. C'est Dieu qui a inventé le temps. Eh oui, voilà encore un autre secret que les gens ne comprennent pas. Le temps n'est qu'une invention. Pour nous, ce n'est pas possible, parce que nous sommes sujets au temps. Nous devons nous apprendre à faire toutes choses en son temps, et c'est ça le secret. Et lorsque nous faisons quelque chose, nous devons nous concentrer à ce que nous faisons. La plupart du temps, prenez votre exemple, lorsque vous faites une chose, votre esprit est ailleurs. Vous n'êtes pas tout dans ce que vous faites. Et Dieu veut que nous soyons tout dans tout ce que nous faisons. Et il y a un temps pour tout, comme Salomon a dit dans Ecclésiaste, chapitre 3, il dit, il y a un temps pour tout. Laissez-moi citer quelques-unes de ses déclarations. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8, je prendrai quelques-unes. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Eh oui, pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Oui, ça, c'est la vie. C'est simple. Il faut accepter et avec joie suivre la voie qui est tracée devant nous. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. C'est la nature, les saisons. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Autrement dit, pour tuer, ce n'est pas la chose que nous disons pour tuer, mais un temps pour mettre fin à quelque chose, un temps pour refaire une chose. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. C'est ça, la signification. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Ce sont des choses qui arrivent. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Et ainsi de suite. Je ne veux pas continuer. Vous n'avez qu'à continuer le reste et voir ce que Salomon dit. Si vous comprenez l'importance de la valeur du temps, donc ne gaspillez pas votre temps. Ce que vous faites, faites-le avec plaisir, avec joie, avec détermination. Et je répète, concentrez-vous à ce que vous faites. Ne soyez pas comme beaucoup de gens qui font quelque chose et pensent à d'autres choses. Autrement dit, ils ne se concentrent pas dans le travail qu'ils font. Ce n'est pas ainsi que vous pouvez aimer Dieu. Ce n'est pas ainsi que vous pouvez vraiment comprendre l'importance de la vie. Prenez le temps d'examiner la direction que votre vie a prise. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à ce que vous étiez hier? Et où en serez-vous aujourd'hui par rapport à ce que vous serez demain? Tout dépend de vous, des décisions que vous prenez. Voilà des changements qui sont importants et qui, en quelque sorte, dépendent de vous. Si vous gaspillez votre temps, si vous gaspillez vos efforts à des choses qui ne sont pas vraiment importantes aux yeux de Dieu, dans ce cas-là, hélas, vous perdez votre temps. J'ai dit souvent, lors de mes conversations avec des gens, qui me demandent par exemple des conseils, pour autant que je puisse leur donner, comment ils pourraient être plus heureux. Je dis, écoutez, le matin, lorsque vous vous levez, à quoi pensez-vous? C'est une bonne question. Est-ce vraiment à ce que vous allez faire le jour même, aux difficultés que vous aurez peut-être, ou bien vraiment, est-ce que vous vous levez en disant, Dieu, merci. Merci pour la nuit, merci pour ta protection, merci pour la vie. Merci de ce que j'ai l'occasion de croître dans la grâce et la connaissance, et que je pourrais avancer pour qu'un jour je puisse être dans ton royaume. Voilà un commencement. Le matin, oui, le matin, pourquoi pas, et le soir aussi, et dans la journée. Alors, les choses changent, voyez-vous. La plupart du temps, je répète, nous autres humains, nous avons tendance à respecter, entre guillemets, l'essentiel, je dis respecter, entre guillemets, et négliger le reste. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, Dieu appelle hypocrisie. Notez-le. Matthieu 23:23. Le Christ a dit malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Voilà la définition d'hypocrite. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth, du cumin, et que vous laissez de côté le plus important. Voyez-vous, voilà l'hypocrisie. C'est quoi le plus important? La plupart des gens ne comprennent pas ce qui est le plus important dans la loi, dans la vie. Il dit, la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qui est le plus important. La justice, la miséricorde, la fidélité. Et ensuite, le Christ ajoute, le verset suivant, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Voilà la force, sans négliger. Souvent, nous négligeons ce qui est secondaire. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas Dieu. Je vous ai cité souvent l'exemple des deux sœurs dont il est question dans Luc chapitre 10. Ce sont deux sœurs qui aimaient le Christ. Ce sont deux sœurs qui voulaient obéir à Dieu. Ce sont deux sœurs qui voulaient survivre. Ce sont deux sœurs qui vraiment cherchaient à plaire au Christ. Mais l'une d'elles, Marthe, c'est dans Luc chapitre 10, vous n'avez qu'à lire, verset 38, Marthe était très contente de recevoir le Christ dans sa maison. Sa sœur nommée Marie, au lieu de faire le nécessaire pour recevoir le Christ, était assise au pied du Christ pour apprendre. Et Marthe n'était pas contente. Je paraphrase l'histoire. Marthe, vous voulez que le Christ fasse quelque chose? Il dit, écoute, fais quelque chose que ma sœur vienne m'aider. Qu'est-ce que le Christ lui a dit? Verset 41, Luc 10. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, dit-il, Marie a choisi la bonne part. Voilà. Si vous comprenez ceci, vous comprendrez une vérité indispensable dans la vie. Toute chose en son temps. Mais avant tout, tout ce que Dieu dit, c'est ça qui doit avoir la priorité dans notre vie. Souvent, je répète, les changements que vous subissez sont dus à la direction que vous donnez à votre vie. Si vous avez pris une mauvaise décision, automatiquement, les conséquences seront mauvaises. N'en blâmez pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas Dieu. Tâchez de changer, je répète, ce que vous pouvez changer. Et si vous ne pouvez pas changer, dans ce cas-là, tâchez d'accepter en bon chrétien sans pour autant transgresser les lois divines. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné nous guide. Si nous sommes baptisés, si nous sommes chrétiens, vraiment chrétiens, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons un Esprit Saint. Mais la plupart du temps, même nous autres dans l'Église, nous ne suivons pas les directives que l'Esprit Saint nous donne. Nous poussons nos propres désirs. Voilà pourquoi, je répète, la base de la véritable réussite dans la vie, c'est d'abord de se repentir. C'est la base. Parce que ce qui nous empêche d'être proche de Dieu, ce qui nous prive des bontés divines, ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu, comme Ésaïe l'a déclaré dans Ésaïe chapitre 55. Donc, d'abord, éloignons-nous du péché. Mettez le péché derrière vous. Cessez de pécher. Et la seule façon de cesser de pécher, c'est de vous repentir de tout ce que vous avez commis auparavant. Et ensuite, de donner le changement important, nécessaire dans votre vie. Voilà le grand changement. Je vous ai posé au commencement de ce sermon, qu'est-ce que vous vouliez changer dans votre vie? Eh bien voilà, la première chose, changer ce que vous avez adoré, pour ainsi dire, et ce que vous avez brûlé. C'était, vous savez, la leçon de Clovis. Clovis voulait être roi parce qu'il voulait épouser une princesse française, francophone plutôt. Et il a demandé qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour être un roi heureux. On a dit, brûle ce que tu as adoré, adore ce que Dieu a brûlé. Donc, le repentir est indispensable dans notre vie. Chaque jour, nous devons nous repentir des fautes que nous commettons le jour même, parce que si Dieu a pardonné une faute, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Mais étant humains que nous sommes, chaque jour, nous avons une mauvaise attitude de temps en temps. Chaque jour, nous commettons des fautes de temps en temps. Donc chaque soir, à genoux, demandez à Dieu de vous pardonner. Ça, c'est un grand changement. Un changement qui vous apportera les bénédictions que vous cherchez. Un changement dont suivra, dont succédera les bénédictions divines. Il y a dans l'histoire du Christ, dans la vie du Christ, des incidents, des occasions fantastiques. Par exemple, les gens venaient auprès de lui pour demander ce qu'il devrait faire. Presque à chaque instance, il disait, écoutez, repentez-vous et tournez-vous vers Dieu. Il y a des gens qui voulaient absolument bénéficier de tout ce que Dieu a promis, de tout ce que le Christ leur disait, mais en faisant toujours quand même leur petit train-train, en suivant leur petit train-train, c'est pas ainsi que vous arrivez. Notez ce que le Christ a dit dans Luc, chapitre 14. Les gens le suivaient, il se retourna et dit, « Si quelqu'un vient à moi, voulez-vous venir au Christ? Voulez-vous que les vôtres suivent la même direction? » Alors, regardez voir ce que le Christ dit. Là encore, tâchez de comprendre, parfois les mots sont mal traduits. Ici, le Christ part d'une comparaison. Dans Matthieu 10, par exemple, vous verrez cette comparaison. De Christ dit, si quelqu'un vient à moi et haït, autrement dit, aime plus que moi son père, sa mère, sa femme, ses enfants, etc., ne peut pas être mon disciple. Autrement dit, il n'y a pas de comparaison. Si vous aimez les vôtres plus que vous aimez Dieu, vous n'êtes pas tout en ce qui concerne Dieu. Vous ne pouvez pas jouir de la vie comme Dieu voulait que vous puissiez en jouir. Ensuite, au verset 27, c'est ça qui m'intéresse. Si vous voulez vraiment suivre le Christ, si vous voulez vraiment être chrétien, si vous voulez vraiment bénéficier de la bonté divine, il dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Oui, chacun de nous, nous avons une croix à porter en ce moment. Chacun de nous, nous avons des difficultés. Les difficultés doivent nous aider à avancer et non pas à reculer. Les difficultés doivent nous aider à nous approcher de Dieu et non pas à dire où est Dieu. Les difficultés doivent nous donner la force pour savoir qu'un changement est nécessaire dans notre vie. Et ce changement se fera lorsque nous chercherons la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ensuite, le Christ parle de détermination. Autrement dit, souvent, certains d'entre nous, plusieurs d'entre nous, je dirais, nous sommes entrés dans l'Église avec la détermination de faire ce que Dieu dit. Nous avions au commencement de la bonne attitude, mais à mesure que les années se sont passées, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de toute façon, certains d'entre nous se refroidissent parce qu'ils ne voient pas les changements qu'ils voudraient avoir dans leur vie. Donc, dans l'appel du Christ, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est notre persévérance. Voilà pourquoi le Christ a dit « Quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas mon disciple. » Mais après, il ajoute, il dit « Car, dit-il, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, voir s'il a de quoi la terminer. » C'est ça, hélas, le drame dans l'Église, parfois. C'est ça, hélas, le drame dans le monde. Voyez-vous, nous avons de quoi commencer un projet, mais souvent pas de quoi terminer ce projet. Lisez le reste. On pourrait dire que la vie chrétienne est une suite de changements. Un changement vers la croissance spirituelle. Un changement qui nous donne l'occasion de chercher la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu et la détermination de faire la volonté de Dieu. Nous sommes tous en tant qu'humains sujets à des doutes. Nous sommes tous en tant qu'humains des gens qui voudraient avoir ce que Dieu promet sans pour autant faire ce que Dieu nous dit de faire. Eh bien, il y a une chose que nous puissions donner à Dieu. Avez-vous jamais pensé à cela? Dieu a tout, vous et moi, nous n'avons rien. Tout ce que nous avons, nous recevons de lui. Ça, c'est entendu. Bon, je vous pose la question. Lorsque Dieu vous appelle et il vous donne la promesse de la vie éternelle, qu'est-ce que vous pouvez lui donner en échange? Quoi? Qu'est-ce que vraiment? Prenez le temps, qui que vous soyez, de réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez donner au Christ? Vous direz rien, non? Je ne suis pas d'accord. Le Christ a tout, d'accord. Il peut avoir tout, d'accord. Mais lorsqu'il vous a appelé, il vous a appelé parce que il y a une condition qu'il vous pose. Cette condition, si vous la comprenez, est fantastique. Si vous ne la comprenez pas, vous pensez peut-être que Dieu est injuste. Cette condition, c'est de vous rendre totalement à Dieu, d'être esclave du Christ. Eh oui, un vrai chrétien, c'est l'esclave du Christ. C'est ça que vous pouvez donner. Et être esclave du Christ, c'est une bénédiction. Parce que être esclave du Christ vous protège du danger de l'extérieur. Être esclave du Christ vous donne l'occasion de vous approcher de Dieu, de bénéficier de ses promesses. Le mot esclave n'a pas le même sens dans cette direction, car le mot esclave signifie vraiment bénéficier de la bonté divine, bénéficier des promesses que Dieu a faites. Donc, c'est ce que vous pouvez vraiment donner au Christ. De vous-même, vous ne valez rien. Aujourd'hui, vous êtes, et demain, vous n'êtes que poussière. C'est vrai? La vie n'est qu'un souffle. Donc, qu'est-ce que vous donnez? Absolument rien. L'apôtre Paul, voyez-vous, a compris cette vérité. Il était riche, il était puissant, et il poursuivait même les chrétiens, comme vous savez, acte 9, je ne vais pas le citer, mais vous n'avez qu'à relire. Lorsque le Christ l'appelait sur la route de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Paul ne savait pas ce qui s'est passé. Le Christ a dit, écoute, il faut que tu changes de direction. Mais Paul, auparavant, a posé deux questions. Qui es-tu? Pour vérifier la source, et que veux-tu que je fasse? étudier la Bible, ça vaut la peine. Dès ce moment-là, Paul n'a plus changé de direction. Il s'est toujours rappelé ce que le Christ lui avait dit. Et face à toutes sortes de souffrances, à toutes sortes de malheurs, il ne s'est jamais détourné de la vérité. Jamais détourné du chemin que le Christ lui avait montré. Et pourtant, vous, moi, beaucoup d'autres, probablement, face à de telles persécutions, nous aurions, nous, changé d'avis. Nous aurions dit, Dieu ne nous aime pas. Et nous serions tournés ailleurs. Pas Paul. Paul est resté parce qu'il savait que par le Christ, il peut faire toutes choses. Les gens aujourd'hui pensent que les lois nous rendent esclaves. C'est tout à fait le contraire. Si nous sommes les esclaves du Christ, les lois nous permettent de jouir de notre esclavage d'une façon magnifique. Autrement dit, d'être protégé des dangers. Mais nous devons pratiquer ces lois. Ces lois ne sont pas des lois d'esclavage, au contraire. Notez-le, Jacques 1, versets 22 à 25. Jacques dit, « Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et Jacques ajoute, « Si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt qu'elle y était. Et ensuite, après cela, et c'est vrai, vous savez, parfois nous savons ce qui ne va pas avec nous, nous cherchons conseil, nous recevons, j'espère, de bons conseils, et ensuite nous oublions. Ce n'est pas ainsi que nous pouvons croître dans la grâce et la connaissance. Et Jacques ajoute, au verset 25, chapitre 1, « Celui qui aura plongé les regards dans la loi, quelle loi ? Dans la loi parfaite. Tiens, la loi est parfaite. » Et il ajoute, la loi de la liberté. Combien sont les chrétiens de par le monde qui croient à ce verset ? Les lois divines sont des lois parfaites, les lois de liberté. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voyez-vous, nous autres humains, nous sommes tous faibles. Nous n'avons pas la force de continuer, mais Dieu a la force. Dieu nous donne la force. Aimez les lois divines. Respectez ces lois. Appréciez ces lois, parce que ces lois vous protègent du danger. Ce faisant, voyez-vous, vous faites une faveur à vous-même. Nos ancêtres n'ont jamais compris cela. L'ancien Israël n'a jamais compris cela. Ils ont demandé à Samuel, donne-nous un autre roi, un roi humain qui nous gouverne, qui nous guide. Vous n'avez qu'à lire 1 Samuel, chapitre 8, je n'ai pas le temps maintenant. Les gens voulaient un changement. Quel changement voulaient-ils? Ils voulaient être comme les autres nations qui, eux, elles, avaient des rois humains. Alors qu'Israël avait Dieu en tant que roi. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Il a dit, écoute Samuel, vous n'avez qu'à lire verset 8, chapitre 8, 1 Samuel 8. Il dit à Samuel, écoute, dis-leur des difficultés qu'ils auront, je paraphrase, dis-leur qu'ils seront malheureux, ils seront des esclaves des hommes. Dis-leur qu'ils perdront tout. Les gens ont entendu cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir tout écouté, verset 19 de ce chapitre, 1 Samuel 8, après avoir écouté tout ça, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. C'est là où nous en sommes aujourd'hui en ce qui concerne l'humanité. Alors, vous voulez un changement dans votre vie? Vous n'aimez pas la routine? Voilà, je vous ai dit aujourd'hui, en gros, la façon de faire le changement nécessaire. Un changement qui vous met sur le bon chemin. Un changement qui vous donne la joie au cœur. Face à l'adversité, vous aurez le sourire aux lèvres. Face aux déceptions, vous aurez toujours je dirais, la force d'aller de l'avant. Avant tout, sachez que Dieu est disposé à vous pardonner lorsque vous vous tournez vers lui. Dieu ne veut pas du tout que nous souffrions. Nous souffrons parce que parfois nous choisissons de suivre la voie de Satan, qui nous promet tout et qui ne peut absolument rien nous donner. En fin de compte, laissez-moi vous citer l'apôtre Paul de Romains, chapitre 12, qui vous montre quel est le changement que Dieu veut que vous ayez dans votre vie. Romains 12, versets 1 à 2. Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu. » Savez-vous ce que c'est que la compassion? La compassion, c'est lorsque vous faites quelque chose, par amour, par détermination, pour donner quelque chose. La vie est faite pour donner, non pas pour recevoir. Comme le Christ a dit, il est plus heureux de donner que de recevoir. Je paraphrase. Mais voyez-vous, Paul dit la même chose dans Romains 12. Il dit, « Je vous exhorte, dit-il, frères, par les compassions, l'amour de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Comment ferons-nous cela? Au verset 10, au verset 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas ce que le monde fait autour de vous. Ne suivez pas le chemin que le monde suit. Mais soyez, dit-il, transformés. » Voilà le changement. Transformé par le renouvellement de l'intelligence de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu. Voyez-vous, c'est ce genre de changement dont nous avons besoin tous. Et lorsque nous avons cette compréhension, alors nous pouvons faire face à toute adversité. Et nous lever le matin, le sourire aux lèvres, et nous coucher le soleil, le cœur tranquille.